Les conférences du Collège de France.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette dernière conférence d'Ourig Sourousian sur le thème de la statuaire et des temples. Et on va l'entendre aujourd'hui sur le temple funéraire d'Amenhotep III. Je lui laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup, merci Laurent. Encore une fois, merci de l'invitation. Et merci aux amis d'être venus me supporter, m'écouter. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous parler de la statuaire du temple d'Amenhotep III où je travaille depuis bientôt 27 ans. Et je vous parlerai au nom de l'équipe entière, au nom du projet entier, qui pour nous s'appelle la mission des colosses de même nom. En anglais, le titre officiel est de Colossi of Memnon and Amenhotep III Conservation, Temple Conservation Project, parce que c'est pour conserver les monuments qui disparaissaient que nous sommes entrés en scène dans ce temple. Donc c'est un projet de conservation proprement dit, mais pour faire de la conservation, il faut faire des recherches, des investigations, des enquêtes. Il faut ouvrir, il faut voir, identifier, penser à ce qu'on peut faire et comment on peut sauver un monument. Donc, cette grande aventure, je l'ai commencée en 1998, en coopération, en co-direction avec Rainer Stadelmann, jusqu'à 2019, ensuite avec Dietrich Raue, et tout récemment avec Catherine Gabler, qui va prendre ma succession sur le site. Le projet travaille sous l'égide du ministère des Antiquités, maintenant ministère du Tourisme et des Antiquités, et de l'Institut archéologique allemand. Je remercie dès le début, parce qu'à la fin on n'a jamais le temps de remercier très chaleureusement les mécènes, grâce à qui tout ce travail a pu être fait. Et je lis, par ordre d'apparition sur le site, ce sont World Monuments Fund avec qui nous avons commencé, Association des Amis des Colosses de Memnon, fondée par Madame Monique Hennessy, qui nous a supportés pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, American Research Center in Egypt, qui nous supporte jusqu'à aujourd'hui. Memnon Verein de Munich, une organisation créée par un juge pour nous aider spécialement. Mercedes-Benz Égypte nous donne une voiture par saison. Et quand nous avons des colloques et des grands événements, aux finances, Horace Egyptology Society, ce sont des amis d'Angleterre qui viennent nous visiter chaque année en nous apportant un cadeau, soit une pompe à eau, soit toujours selon nos besoins. Et finalement, des amis de la famille et du site, Stéphanie et Bernard Buchner, Ulrike Köhler et tous les amis, à tous, je dis merci beaucoup et je passe à ce que nous avons fait. Alors, c'est ainsi que le site se présentait quand nous avons mis pied là. Et c'était, bon, vous voyez là, c'est verdoyant, mais c'était régulièrement inondé par l'eau de l'irrigation. Régulièrement, il y avait des feux. La végétation sèche en été brûle pour un oui, pour un non. Et le tout disparaissait doucement. Et moi qui m'occupais de statuaire et qui passais tous les jours par là et regardais l'état très désolant de l'endroit qui, depuis 1900, dans les années 70 et 1900, n'avait jamais été traité. Il était de temps de prendre action. Et c'est là. Donc, je vous montre brièvement. Il y a, contrairement à ce qu'on pense, on dit qu'il n'y a plus rien sur ce site. Il y a tellement de statues encore à étudier et à traiter, vous allez voir. Donc, ce que nous avons fait, c'est bon, les colosses du premier pylône existaient, les colosses dits Memnon aujourd'hui. Au deuxième pylône, là, vous voyez des cailloux, nous avons remonté deux colosses que je vais vous montrer. Au troisième pylône, nous comptons remonter deux colosses d'albâtre, absolument uniques, d'Amenhotep III. Puis, beaucoup plus loin, là où vous voyez des bases de colonnes et des restes de colonnes. C'est la cour péristyle, la grande cour péristyle, où nous avons remonté d'abord une stèle, faite de quelques 200 morceaux, là, à droite, et des colosses du roi debout, dans l'attitude d'Osiris, mais pas momiforme. Donc, nous allons voir tout ça. Aujourd'hui, le site a cette allure-là. Et je tiens déjà à vous annoncer trois très bonnes nouvelles. Il n'y a plus d'eau, grâce aux travaux d'assèchement auxquels ont conclu les mécènes, comme Khéops, Fonds Khéops pour l'archéologie American Research Center et Mme Marjorie Fisher, que je remercie particulièrement, parce que c'est à grâce à elles qu'on continue. Et donc, il n'y a plus d'eau. L'eau a baissé de 3 mètres, donc nous pouvons maintenant à l'aise. Autrefois, pour descendre un peu voir ce qui se passe, nous avions toujours l'eau et il fallait toujours utiliser des pompes. Donc là, mes successeurs auront la vie belle, pourront fouiller très profondément, il n'y a plus d'eau. Deuxièmement, grâce à la collaboration avec Dr Mahmoud Moussa, qui est le chef de la zone sud de la rive ouest de Louxor, avec un agriculteur, ils ont trouvé le moyen d'éradiquer l'horrible végétation qui poussait. L'horrible agoule, c'est une plante épineuse que d'autres appellent chouk. La plante alpha et des roseaux, plein de roseaux qui prolifèrent très vite. Donc, tout cela, grâce à des sprays, à des vaporisations successives d'un produit, il n'y a plus de plantes pour l'instant, mais il faut toujours contrôler et toujours recommencer. Donc, ça, c'est deux très bonnes nouvelles. Et troisièmement, nous allons être soutenus pour remonter les colosses d'Albâtre dont nous rêvons depuis quelque temps. Donc le temple, dites-vous bien dès le début, pour ceux qui n'ont jamais vu le temple, ou pour ceux qui l'ont vu plusieurs fois, contrairement à tous les autres temples qui ont leurs murs, leurs plafonds parfois, tout, par exemple, vous allez à Edfou, c'est merveilleux, il y a tout. Ce temple-là n'a rien, il n'y a ni mur, les pylônes, des fantomatiques pylônes. Nous avons découvert les restes en briques de deux pylônes, du deuxième et du troisième, que vous voyez là, et le reste du temple qui a été construit en pierre, en grès, plus par rapport à la richesse et l'ampleur de ce temple qui correspond à l'apogée de la civilisation égyptienne où c'est la plus grande expansion territoriale, c'est la plus grande richesse, il y a des relations pacifiques et diplomatiques, etc. Par rapport à cela, le temple était le plus grand de son type, temple dit funéraire, je vous expliquerai ce qu'il en est. Et donc, c'était très riche. Malheureusement, malgré cette opulence prodigieuse, quelques 150 ans, le temple a été construit dans la première moitié du XIVe siècle, vous le savez, au cours du règne d'Amenhotep III, entièrement. Et malgré donc cette opulence, quelques 150 ans après que le temple a été construit et florissait, et qui avait quand même résisté à la révolution amarnienne et qui avait repris de plus belle. Il y a un grand tremblement de terre que nous avons pu détecter à 7 endroits différents du temple et partout dans la montagne Tebène grâce à des archéosismologues de l'Académie des sciences de Yerevan, d'Arménie, qui malheureusement ont la lourde expérience avec des tremblements de terre. Donc, autour de 1200, vers la fin du règne de Ramsès II et probablement tout au début du règne de Meremta, 1200, retenons, autour, il y a eu un très grand tremblement de terre qui a complètement bouleversé la morphologie des lieux. Tout a été détruit et immédiatement après, les carriers s'en sont servis naturellement au profit des autres temples, des autres constructions. Donc, Pensez à tout ce qui part. Les pierres, ce sont des grands blocs très très beaux de grès, du calcaire, de granit pour les portes, de diorite. Et pour la statuaire, toutes sortes de pierres précieuses et non. Tout cela a été réutilisé, réemployé. Donc les derniers vestiges de ce temple ont été ensuite couverts par les torrents de la montagne. Et beaucoup plus tard, dans les derniers siècles, le Nil ayant bougé et l'inondation étant venue beaucoup plus à l'ouest qu'on le pensait, ces ruines-là, les derniers vestiges, ont été recouverts de couches alluviales du Nil, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le temple, vous marchez 3 mètres, 2 mètres et demi à 3 mètres au-dessus du niveau du sol original. Donc pensez, malgré l'eau, végétation et tout cela, pour vraiment trouver, si vous avez la chance de trouver quelques vestiges, il faut fouiller. Et le limon du Nil est très très dur, donc ça prend beaucoup de temps à fouiller. Ceci dit, donc, ne vous attendez ni à des murs, ni c'est vraiment les derniers restes. Mais quels restes ? Comme c'était extrêmement riche, c'était prodigieux ce temple, il reste encore assez pour plusieurs générations, et plusieurs beaucoup de temps pour encore trouver et étudier ce temple. Donc il se présente comme nous l'imaginons ici, une reconstitution proposée par Naire Ampigan, qui est l'architecte du site et qui est le site manager. Vous avez un grand mur d'enceinte dont des vestiges avaient été trouvés par nos prédécesseurs, et l'enceinte commençait par un grand pylône, ici encore en briques, jusqu'au règne de Séti Ier inclusivement. Les pylônes de la rive ouest sont en briques, les portes des pylônes sont en grès ou en pierre. Donc, les 3 pylônes successifs en briques qui avaient des portes en grès décorés de reliefs et peints, nous avons des morceaux de ces blocs-là, des blocs, disons, ou des morceaux de décoration. Les 3 pylônes sont séparés par 3 grandes cours, ou 2 grandes cours pour les 3 premières. Ensuite, il y a une longue avenue processionnelle que vous voyez là, qui mène à une grande cour péristyle, entourée de portiques de piliers papyriformes fermés. Cette fois, à partir de là, tout est en pierre. Et qui par une salle hypostyle, donner accès à la part privée du temple, c'est-à-dire à la zone des sanctuaires, et parce que ce temple est essentiellement conçu, comme tous les autres temples de la rive ouest que nous appelons temple funéraire, pour recevoir la procession d'Amon et de ses paraîtres, Amonmout et Khonsu, de Karnak, venant visiter la rive ouest au cours de la Belle Fête de la Vallée, le festival de la Belle Fête de la Vallée, une fois annuellement. Donc, essentiellement, c'est à ça que ça sert un temple dit funéraire. Les Égyptiens, eux, les appelaient temples de millions d'années, et nous avons découvert un bloc qui porte ce nom-là. Donc, temple de millions d'années, pourquoi ? C'est fait pour recevoir la procession d'Amon. Le roi donateur du temple et donateur de toutes les offrandes qu'il apporte avec lui et toutes les célébrations, de toutes les cérémonies, de tous les rituels, il vient, théoriquement, il vient chaque année accompagner la procession, il apporte ses offrandes. Mais le roi, après sa mort, qui est enterré derrière la montagne, là, peut à tout moment venir participer par les legs qu'il a fait, par les institutions qui continuent, les domaines royaux et de l'État qui servent à apporter ces offrandes, très riches. Donc, il peut à tout moment venir. Et il y a une fausse porte exprès faite pour ça. Dans d'autres temples, nous avons cet élément. Venir participer à toutes les cérémonies, au rituel journalier, s'il le veut, aux grandes festivités et recevoir des offrandes. Donc, comme il savait que Amon allait venir tous les ans, c'était une sorte d'assurance. C'est pour ça, ça s'appelle un temple de millions d'années. Pendant des millions d'années, le temple vit. Donc, on leur souhaite de continuer ceci. Alors, la partie privée du temple consiste, au milieu, vous voyez, c'est une partie fermée. Ce sont les trois sanctuaires d'Amon, Mout et Khonsu, précédés des sanctuaires de la barque, parce que les divinités viennent porter dans des barques, après avoir traversé le Nil sur la grande des grandes barges. Et au nord de cette unité, il y a une cour à ciel ouvert qui est la cour solaire, proprement dite, de Sun Court. Et là, nous l'avons dessinée, et cette cour existe au temple de Séti Ier, au nord, dans la nécropole, au temple de Hatshepsut, à Medinet Habu. C'est la cour solaire où on vénère le dieu principal, Ré. Et au sud, c'est le temple funéraire proprement dit. C'est un petit temple dans le temple, enfin petit, dans la mesure où ce temple le permet, où justement il y a, c'est un temple entièrement conçu pour que le roi, après sa mort, puisse venir par une fausse porte et participer à tout le rituel et recevoir les offrandes et vivre des millions d'années. Donc, c'est à ça que ça sert. Imaginez que dans cette grande enceinte où nous n'avons la partie proprement archéologique qui appartient au service des antiquités, n'est que ce squelette de temple principal, mais tout le reste est sous, donc 2 à 3 mètres de sol, et ce sont des champs cultivés, des propriétés privés, ça n'appartient ni à l'État ni rien. En plus, maintenant, ils peuvent acheter davantage. Donc, nous sommes contents d'avoir sauvé ce qu'il y avait encore à faire. Alors, imaginez dans tout cela, pensez un peu à Karnak, c'est aussi grand, c'est aussi vaste, mais c'est construit en un seul règne. Pensez qu'il y a des avenues d'autres temples, de divinités auxiliaires ou d'autres divinités, des avenues processionnelles qui se croisent, des chapelles un peu partout, des trésors, des storerooms, des magasins, des endroits pour les prêtres, des bureaux, tout cela. Et vous devez imaginer tout cela ici. En deux jours, j'espère qu'on trouvera le moyen de fouiller sans fouiller et retrouver le temple. Espérons. Voilà comment ça se présente. Donc, de tout cela, je vais vous montrer ce que nous imaginons. Voici encore les trois pylônes qui sont précédés de paires de colosses, dont voici les premiers ici, ceux qu'on appelle Memnon maintenant, parce que vous connaissez ça, le colosse nord avait perdu au cours d'un tremblement de terre sa partie supérieure et avait été assimilé à Memnon, tombé aux portes de Troie. Donc trois pylônes successifs précédés par deux paires de colosse, en quartzite pour le premier et le deuxième. Ensuite, la grande avenue processionnelle qui mène à la grande cour péristyle que vous voyez. C'est un portique de colonnes. Entre les colonnes qui donnent sur la cour ouverte, il y a des statues royales que je vais vous montrer en quartzite et en granit. Et c'est en ressortant que la procession d'Amon faisait face à ces deux stèles-là qui sont à l'entrée de la cour péristyle, mais que Amon, lui, voyait quand il sortait. Et là, le roi et la reine sont représentés en train de faire offrande à Amon-Ré d'une part et à Sokar de l'autre, qui sont les divinités principales tout au long de ce temple. Donc, voilà, maintenant, en chair et en os, les colosses du premier pylône. Ce sont des monolithes de quelques 800 tonnes qui ont été apportés de Gebel el-Ahmar, du nord jusqu'au sud. Vous les voyez comme ça, ils représentent le roi assis dans l'attitude classique telle qu'on connaît depuis l'Ancien Empire. Mais maintenant, il ne tient rien, les mains posées à plat sur les genoux. Il porte la coiffure Némès, sur lequel il y avait une double couronne. Nous avons un vestige sur la tête du colosse sud et une représentation dans le dos du colosse nord. Et assis, donc, sur un trône qui est décoré, comme vous le verrez, par la scène de Sematawi. Et de part et d'autre de ces gens, à gauche pour nous, c'est-à-dire au sud, c'est la reine, la grande épouse royale, Ti. Et de l'autre côté, à droite, c'est-à-dire au nord, à sa gauche, c'est la reine mère Mutemuya qui est représentée. Entre les jambes, il y a une paire de pieds plus petits qui a été pendant longtemps controversée. Qui est-ce que c'est le prince héritier, ensuite transformé en une des filles royales, etc. Vous allez voir, nous savons qui c'est maintenant, grâce à une autre représentation. Donc, trois reines qui accompagne le roi et qui portait la chaîne dite. Et vous verrez, il faut toujours s'attendre à des grandes surprises très agréables de la part d'Amenhotep III. Vous verrez ce que cache son costume ici. Mais avant ça, les sondages que nous faisons depuis longtemps, ça sur l'initiative de Rainer Stadelmann, toujours autour des colosses, des socles de ces colosses, on nous a dit, les ingénieurs statiques, de ne jamais enlever ces trois couches, ces trois mètres de couche alluviale autour des mêmes noms. On risquerait de complètement déséquilibrer parce que c'est avec leur poids qu'ils sont là. Vous savez qu'ils penchent d'abord et que souvent il y a la crainte qu'un tremblement ne les fasse s'écrouler à nouveau. Donc, longtemps avant que je m'occupe de ce site, déjà le service des antiquités avait demandé à Rainer Stadelmann, qui était alors le directeur de l'Institut allemand, de faire une investigation pour voir si les colosses qui penchent peuvent. Il y avait beaucoup de tremblements de terre à cette époque. Est-ce que ça risque? Donc, ce survey a été fait, photogrammétrie, et je vous dirai tout de suite. Après cela, les ingénieurs classiques ont dit, ne faites pas, faites des petits sondages pour savoir ce qui se passe et refermez tout de suite, rebouchez les trous. Donc, voici deux sondages faits, l'un à au nord du colosse sud et l'autre au sud du colosse nord, par les sismologues. Et vous voyez, les socles que vous voyez ici, qui font à peu près 2 mètres, vont beaucoup plus bas. C'est ainsi que nous avons su que le socle du colosse sud va de sa partie supérieure jusqu'à la pierre de fondation, 3 mètres 30 ici et 3 mètres 60 là-bas. Donc, avec ça, on peut calculer la hauteur. Vous ajoutez à ces plaintes, chaque statue elle-même, plus dans l'état actuel, depuis la fondation jusqu'en haut de la tête de chaque colosse, c'est 17 mètres 27 pour le colosse sud et 18 mètres 36 pour le colosse nord. Et ajoutez à cela la double couronne, vous arrivez à peu près à 21 mètres. Les 40 coudées dont parle le chef de tous les travaux de Sa Majesté, Amenhotep, fils de Hapou, qui dit qu'il a fait venir de Héliopolis du Nord un grand colosse de 40 coudées à Héliopolis du Sud, c'est-à-dire à Thèbes. On ne sait pas s'il s'agit d'un des colosses dit Memnon ou du grand colosse du 10e pylône de Karnak. Ça, c'est à voir. Un jour, quelqu'un trouvera un document. Donc, voici. Et la pierre elle-même vient de Gebel el-Ahmar, comme j'ai dit. Voici les carrières que j'ai eues, que j'ai pu visiter dans le temps. Maintenant, c'est complètement envahi par beaucoup d'autres occupants. Et pour le colosse nord, vous savez que, donc, comme le haut était tombé, il a été refait. Le haut, non plus monolithe, ce n'est plus un buste monolithe ou une partie supérieure, mais c'est fait par des assises de blocs de quartzite, mais pas de, de la même qualité de quartzite. Cette pierre-là vient de Aswan. Lavi Pabashi l'avait déjà proposé et on hésitait entre Gebel Tingaj et Gebel Goulab à Aswan, où il y a des grandes carrières. À Gebel Tingaj, nos archéosismologues sont allés voir, il n'y a absolument aucune place pour avoir sorti 3-6 grands colosses. Ils avaient dit ça. Et pensez qu'en 1996, Jean-Luc Fournet avait trouvé dans les carrières de Gebel Goulab, en étudiant les inscriptions, une inscription d'un certain forgeron de même nom. Ça veut dire que ça peut être considéré comme la carrière d'où vient le haut, hein, de ce colosse-là, qui, parce qu'il a été assimilé par les voyageurs gréco-romains, les Romains surtout, qui parlaient très bien grec et connaissaient, avaient de la culture, à Memnon, tombé aux portes de Troie, qui était tué par Achille. Donc, maintenant, l'usage fait que les deux sont appelés Memnon, mais ne soyez pas puristes, on sait que c'est Amenhotep III et que Memnon c'est celui du nord, mais nous continuons à les appeler colosses de Memnon. Donc, les voici. Celui du nord, qui, vous voyez, est fait en haut par des assises de blocs de quartzite venant de Gebel Goulab d'Aswan, qui se présente comme ça. L'effet du tremblement de terre et celui de l'an 27 de notre ère est pure invention. Strabon, qui parle pour la première fois de ce colosse-là, mais sans l'identifier encore à Memnon, dit qu'il a été écroulé par un tremblement de terre, mais ne donne ni date ni rien. De là, ils ont calculé un peu avant la visite de Tell. Donc, moi, je crois que c'est un des grands tremblements de terre, peut-être même celui qui a fait le temple s'écrouler. On ne sait pas. Ça, ce n'est pas dit. Ce qu'on sait sûrement, c'est que c'est à l'époque romaine que le haut a été reconstitué. Imaginez que le buste était gisant là, qui leur a fait penser à Memnon tué par Achille aux portes de Troie. Alors, vous voyez l'effet du tremblement de terre. Le trône est complètement coupé en deux. La partie arrière est détruite. Toutes les pierres sont du temps de la restauration romaine. Et le dos, là de près, vous voyez beaucoup mieux comment les assises de pierre, les blocs ont été placés par des assises. Et dans l'inscription originale qui est dans la partie inférieure, elle venant de Gebel El Ahmar, il y a l'inscription royale et dans la titulature, le roi dit qu'il a fait des grands colosses et le colosse a la double couronne, comme vous voyez, en belle pierre de quartzite. Nous avons, au cours de plusieurs sondages faits autour de son socle, qui est complètement coupé, comme vous voyez, c'est l'effet de martelage par le bas du tremblement de terre, nous avons découvert une partie du pied gauche de Memnon, que vous voyez là, que nous avons replacé sur le socle. Et de Medinet Habu, nous avons fait venir un bloc qui appartient à la titulature, là, comme vous voyez, nous l'avons replacé sur le socle. C'est ce que nous faisons d'habitude. Chaque fois que nous pouvons coller, nous mettons. Sauf si c'est de très grandes pierres qui risquent de déstabiliser. Alors, comment on sait que les Romains avaient assimilé le colosse nord à Memnon? Il y a des inscriptions gréco-romaines sur les jambes. Ici, vous avez la jambe gauche, où parmi les visiteurs, rien de moindre que l'empereur Adrien, avec toute sa cour et l'impératrice Sabine, si vous lisez les mémoires d'Adrien, vous assistez à cette visite. Et une poétesse de la cour, Balbilla, a fait un bon poème parce qu'ils sont venus une première fois n'ont pas entendu Memnon. Les visiteurs venaient et à la première heure entendaient un son. Ensuite, sur l'invitation de la poétesse, à la deuxième visite, Memnon a daigné s'adresser à l'empereur et ils ont entendu Memnon et voici l'inscription. Mais sinon, sans cette inscription entre les règnes de Néron et pas de Septime Sévère. Septime Sévère n'a pas d'inscription ici. Ça aussi, c'est un mythe. Et parce que Septime Sévère a visité l'Égypte, on pense que c'est lui qui a reconstruit. Ce n'est pas vrai, on n'a pas son nom. Mais de ces inscriptions en grec et latin sont au nombre de 107, étudiées et publiées par les frères Bernand, et actuellement aussi par une philologue classique, Patricia Rosenmeier, qui a fait l'étude de toutes ces inscriptions-là, et c'est assez académique, c'est pas une lecture pour touristes, mais on apprend beaucoup de choses par ça. Mais à côté de ces inscriptions, donc en grec ou latin, vous voyez l'inscription originale du temps d'Amenhotep III, qui est une merveille, qui est un chef-d'œuvre avec très minutieusement ciselé. D'une part, la partie haute est occupée par cette inscription, mais le bas n'avait pas été achevé. Tous les autres colosses, vous verrez, sont décorés. Voici, donc comment se présente. Et là, en haut, vous voyez la reine nord, c'est-à-dire la reine Mutemuya. Le colosse sud, quant à lui, il est resté monolithe. Mais dans ce cas, c'est un monolithe en soi, le colosse, comme l'autre d'ailleurs l'était. Et le socle était fait de trois parties. Une très, très grande pierre pour la partie de face et deux petits qui fermaient à l'arrière. Ici, lors d'un sondage, nous avons trouvé... Et vous voyez que le trône est décoré par la scène de Sematawi, effectuée par deux dieux Nil, Hapi, l'un pour le nord, l'autre pour le sud, qui nous symboliquement les plantes héraldiques de la Haute et de la Basse Égypte. Au cours de sondages et au cours de plusieurs études faites autour, nous avons recueilli 29 morceaux qui formaient un bloc ici, que nous avons replacé à la place originale parce que l'un des blocs était déjà en place sur la fondation. Et le résultat est que ce bloc, quand il a été remis en place, il est plus haut que le socle. Vous voyez, c'est l'effet du tremblement de terre. Donc nous avons décidé de laisser tel. Nous avons naturellement fermé, bouché le trou. Et la surprise des Memnon, c'est que malgré tout le classicisme qui remonte à des milliers d'années, sur le panier du roi, il y a rendu en haut relief une tête de panthère, de guépard. Et il y a un trou. Probablement, c'est comme Strabon disait, on dit que ça fait un bruit le matin, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a aidé à faire ce bruit. Donc ça, c'est une nouveauté. Mais là, vous voyez aussi l'effet du tremblement de terre, combien le bras entier est fendu. Et il est impossible de poser, par exemple, nous avons le bras, les morceaux du bras droit, mais nous ne pouvons pas le poser parce que nous risquons de déséquilibrer. Voilà. La première photogrammétrie faite au temps de Rainer Stallmann avec l'Institut de conservation de Munich, c'était ça. Je vous montre des exemples où, à ce moment-là, une photogrammétrie durait des semaines. Et maintenant, depuis, nous faisons avec le Total Station moderne cette forme de photogrammétrie pour voir si les colosses bougent. Donc, troisième très bonne nouvelle à vous annoncer, les colosses n'ont pas bougé depuis au moins le début de cette photogrammétrie. Et tout au cours de nos travaux, nous avons à toutes les saisons fait le monitoring. Et dernièrement, Pietro Gaspari, des studios, a fait deux fois une photogrammétrie au laser C'est-à-dire une... comment on appelle ça? Un survey tridimensionnel. Et si ça marche, je vous montre un petit peu. C'est long, je ne pourrai pas tout vous montrer, mais voici. Donc, c'est une vidéo presentation des colosses de Memnon. Et, oups! Alors, imaginez, ça, la première fois, ils ont mis un jour et demi. La deuxième fois, pour faire ça, une demi-journée. Ils sont venus avec leur laser. Et c'est merveilleux, la technologie moderne. Donc, nous avons... Et s'il vous plaît, c'est une riche documentation. Vous pouvez tourner les colosses, monter, redescendre. Je vous montre un peu pour que vous participiez à notre joie d'avoir découvert que les colosses n'ont pas bougé, malgré toute la circulation, le parking. Et donc, ils sont là. Et à tout moment, vous pourrez choisir un endroit, arrêter la vidéo, tourner, voir, approcher, mesurer, comme font les médecins, les chirurgiens. Donc voilà, c'est ainsi que ça se présente. Je passe parce que sinon on pourrait y passer toute la durée de ce cours. J'espère que vous appréciez cette technologie moderne. Et donc, je passe. Derrière, dans la cour qui suit le premier pylône, merci beaucoup. Qui suit le premier pylône, une vaste cour où, comme les champs ont envahi au nord et au sud, nous ne savons pas est-ce qu'il y avait des portiques, est-ce qu'il y avait des statues royales, rien de tout cela. Nous savons, grâce à des travaux d'assèchement, qu'il y avait des arbres plantés, au moins dans la partie nord. C'est tout ce que nous savons. Mais dans cette cour-là, quand vous regardez la photo supérieure, en 1999, voici à quoi ressemblait la zone du deuxième pylône. Donc, vous traversez une cour de 100 mètres, vous arrivez là, et sous les buissons, vous voyez quelques pierres blanches. C'était ce groupe statuaire de quatre personnages qui avaient les pieds dans l'eau et qui avaient été vus avant nous par nos prédécesseurs, l'Institut suisse travaillant avec l'inspectorat de Gourna, et les inscriptions les voici. Grâce à ces inscriptions, on sait que c'était les divinités représentées étaient de gauche à droite Sekhmet, le roi Amon et Amonet, et à l'ère amarnienne, Amon et Amonet avaient été complètement annihilés, enlevés, puis formés et remis, restaurés à l'époque post-amarnienne, y compris les inscriptions où Amon dans le nom royal et Amon dans le nom du dieu avaient été martelés et refaits. Donc c'est la première sculpture que nous avons sauvée des eaux à cette époque-là. Et cette année, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons replacé, parce qu'il fallait attendre que l'assèchement fasse son travail, qu'il n'y ait plus d'eau, on ne peut pas construire et qu'on fasse les fondations. Et cette année, nous avons apporté le groupe en place et placé près du colosse nord du deuxième pylône que nous avons entre-temps relevé. Vous voyez, à l'époque, rien n'existait là-bas. Voilà. Et nous avons même... Donc, et voici, là où il n'y avait absolument rien, vous voyez là-bas, un colosse gisant qui avait été vu, mais jamais... On n'avait même pas eu la curiosité de voir la tête était renversée. À quoi ressemble ça? Nous avons eu la curiosité, non pas par pure curiosité, mais parce que qui dit conservation, il faut ouvrir, identifier et sauver le monument. Sinon, ça ne sert à rien de travailler dans un site comme ça. Donc voici, fait de plusieurs morceaux, le colosse que vous avez vu gisant là-bas a été remonté. Ça, c'est le colosse nord, qui n'a pas de reine médiane. Et il y a une reine, la grande épouse royale, Ti, qui est là, près de sa jambe gauche. C'est la même pierre de Gebel el-Ahmar, la même attitude, le colosse assis, et la même iconographie, double couronne, Nemes et Shendit. Mais là aussi, la Shendit a une surprise, il y a des plantes représentées. Donc, un an plus tard, nous avons remonté le colosse sud, que vous voyez ici, de la même manière, et ce colosse-là n'était pas connu. Il y avait une pierre qui dépassait le sol, et quand nous avons ouvert, chacun a fait un pari. C'était les uns attendaient une inscription historique, moi j'attendais la face du colosse nord, et puis finalement c'était un second colosse que voici, avec une très très belle statue de la reine Tilly à côté, et avec les faces du trône, les faces latérales du trône décorées avec les divinités Hapi, les divinités du Nil, nouant symboliquement les plantes, et voici la reine. Et cette reine, c'est par miracle qu'elle est si bien conservée, la jambe royale, les statues étaient tombées en direction sud-est, et les statues des reines étaient enfouies sous la jambe royale. Donc le roi a protégé la reine, mais par miracle, les morceaux du Réus que nos jeunes gens ont trouvés parmi les débris et les ont remis. Quand nous présenterons la statue, nous la remettrons. Mais pour l'instant, le Réus est en magasin. Donc, 100 mètres plus loin, il y a un autre pylône que nous avons découvert en partie, fait de briques avec ses niches. Chaque môle de pylône avait deux niches pour les mâts auriflammes et chaque niche retenait un bloc de granit rouge pour soutenir les mâts. Voici à quoi ressemblait l'endroit, la plante alpha qui poussait. Nous sommes là où il y a la flèche, hein, la flèche rouge. Et en bas, je mets le plan de la partie du pylône que nous avons découvert. Et en jaune, vous voyez les deux colosses qui sont tombés. Et lorsque nous avons eu assez de fond pour aussi faire cette fouille-là, parce que fouiller, c'est facile. Il faut après conserver ce qu'on a. Il faut avoir la garantie de pouvoir conserver. Lorsque nous l'avons eu, par trois sources très, très sûres, nous avons donc dégagé ces grands blocs d'albâtre qui avaient toujours été là. Et nous nous sommes retrouvés en face de deux colosses. Mais avant ça, à la même époque, ayant fait le rapprochement avec des blocs à Karnak qui avaient été vus par Vary et publiés en 1935, où il est vraiment question, c'est Amenhotep III, c'est le temple de la rive ouest. Et sur ces blocs-là, là où j'ai mis les deux flèches rouges, il y a à deux reprises la mention que Sa Majesté a fait venir des grands monuments en albâtre pur de Hatnoub. Donc, comme il n'y a pas d'autres grands monuments, j'avais fait une demande en 2006 qui a été gracieusement acceptée par le service des antiquités de faire venir les blocs qui avaient été placés plus tard devant le temple de Mout. Et nous avons eu un bon mécénat qui nous a permis de les rapatrier sur l'Ouest. Donc voici, c'est pas tout, mais ce sont des blocs qui soutiennent les colosses d'albâtre. Vous allez voir ce qui va en advenir. Et j'avais fait venir ces blocs en disant, le jour où nous ferons des fouilles là-bas et trouverons un petit morceau qui rappelle, j'aurai justifié mon assomption. Des morceaux, deux grands blocs qui font le pendant de ceux qu'on avait, décorés avec des captifs pour le sud, avec des captifs du sud, et pour le nord, des captifs ligotés, chacun ayant un buste qui surmonte un cartouche crénelé où il y a le nom de son pays, de son empire ou de sa contrée. Voici les deux que nous avons découverts. Et lorsque nous avons sorti la face absolument écrasée du colosse, voici de quoi il avait l'air. Ça, c'est après un premier nettoyage. Cette tête qui appartient au colosse nord est un chef-d'œuvre de sculpture. absolument bien exécuté. Et vous voyez, il y a des traces de polychromie. C'est un des plus beaux portraits colossaux. C'est un chef-d'œuvre de portrait colossal, je peux dire. Voici Amenhotep III dans toute sa splendeur. Et derrière, il y a la poitrine du colosse. Nous avons enveloppé la barbe pour protéger. Et ici, si j'ose toucher, vous allez voir que la face de côté gauche avait des réparations, vous voyez, il y avait des plaques. Là, c'était une plaque circulaire qui tournait, et nous avons la partie interne, la douille, qui venait, et j'espère qu'on trouvera un jour. Et l'uréus, qui fait plus d'un demi-mètre, s'insérait ici, sur le front du roi. Et nous avons une équipe de jeunes gens qui font ces animations et qui nous instruisent et nous amusent. Voici la poitrine avec, vous voyez, il porte un collier bien travaillé, la barbe royale striée et le bas où nous avons trouvé un morceau du ventre que nous venons de recoller. Mais ces colosses-là, comme c'est dur, hein. Il y a depuis la préhistoire, on exploite les carrières d'albâtre en Égypte pour des vaisselles, pour des petites sculptures. Mais des colosses de ce genre, il n'y avait eu que, on a la représentation du nomarque, vous connaissez la célèbre scène du transport des colosses. Mais on n'avait pas, ça c'est la première instance. Donc, probablement, ils ont eu des difficultés avec l'albâtre. Et j'insiste, c'est de l'albâtre égyptien. Ce n'est ni calcite, ni travertin. Je me suis renseignée et un géologue égyptien, le professeur Hafiz Shamseddin, est venu spécialement étudier la pierre. Il a dit, c'est faux, travertin, c'est très léger, ce n'est pas la même formation. Et calcite, c'est une qualité, mais ce n'est pas une pierre. Donc, il faut dire albâtre égyptien. Je n'ai pas peur de le prononcer. Cet albâtre-là, de Hatnoup, donc, nous savons. Et j'espère qu'un jour, nos collègues français et anglais qui travaillent là-bas trouveront l'endroit d'où viennent ces colosses-là, on ne sait pas encore. Ils ont bien trouvé une rampe formidable du temps de Khéops, mais on aimerait bien qu'il y ait Amenhotep III. Donc, vous voyez, il y avait des parties sculptées séparément qui s'encastraient dans le bras, par exemple. Et vous verrez plus loin, il y a aussi des jambes faites de cette manière-là. Nous avons ce colosse nord qui a cette belle tête, aussi une très belle partie du trône. Cette fois, les dieux Nil sont sur de l'albâtre, absolument bien exécuté, très joli, un peu endommagé par le temps et l'eau. Mais, et la reine Ti, qui ici a une autre iconographie. Angu, c'est pour avoir trouvé cette iconographie-là à Sai, Anne, et c'est exactement ça, les trois attributs sur. Les autres reines avaient un uréus, vous vous souvenez. Celle-là a deux uréus avec les couronnes respectives de la haute et de la basse Égypte et au milieu la tête du vautour parce qu'il y a une dépouille de vautour qui recouvre la perruque. Voilà donc comment nous proposons de reconstituer le colosse nord. Il y a assez pour justifier le remontage. Et sinon, ça va se perdre. Soyez sûrs, il n'y a aucune autre explication. Donc, nous allons le faire. Et si ça marche, j'ose, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et Benjamin Blaiseau, qui est là, le chef conservateur qui s'occupe justement de cette pierre-là, et vous verrez, il s'occupe aussi d'autres choses. Et merci Benjamin d'être venu. Et lui, le raïs de tous les travaux, le chef des travaux de du site et Nairam Pigan, l'architecte, ont conçu ce projet-là. Cette manière de remonter, ça vous plaît, ce que les jeunes gens ont fait? Et donc, c'est ainsi que le colosse sera remonté. Les héros de ces raccords, de tous ces travaux, les voilà. Benjamin Blaiseau au milieu, à sa gauche, il y a Hassan de Mordash qui est un champion de raccords. Il peut non seulement faire des joints chaque minute, mais il sait exactement quelle pierre vient de quelle statue, de quel colosse. C'est merveilleux. Et à côté, son assistant, Siwa. Et voici toute l'équipe, sans oublier le Raïs Mohamed Ali dont on voit le dos ici. Voilà, ce colosse, là-bas, avec le colosse nord, vous avez vu, le bras était fait de pièces imbriquées. Ici, la main, l'autre bras, vous voyez, tout s'imbrique. Et la barbe, vous voyez là-haut, qui avait un revêtement, qui venait s'encastrer dans la partie. C'est absolument ingénieux. C'est avant la lettre, nos jeux de casse-tête chinois, mais à l'échelle monumentale, c'est merveilleux. Et je vous montre un peu comment on travaille avec les coussins à air pour bouger ou basculer ou transporter un colosse. Voici le Raïs en pleine action. Et les coussins sont enflés par un compresseur à 8 bars par trait, et progressivement, en gonflant, elles peuvent soulever des charges. Et c'est une méthode conseillée, personne n'est blessé, c'est très très sûr comme méthode. Vous voyez, à chaque fois on remplace un coussin enflé par du gravier et et du bois, voilà. Et c'est ainsi que le colosse sud, dont je vous montre ici la partie inférieure, qui était couché pendant des siècles sur son côté droit. Vous voyez aussi comment les pierres, le revêtement s'emboîtaient. Tout est fait de pièces sculptées séparément. Et la reine, avec aussi les trois attributs, les deux oreilles et la tête de vautour à son front, une perruque enveloppante cette fois, qui est la petite flèche vous montre où elle est par rapport au géant. Et je vous laisse admirer son portrait avec les traces de polychromie et la beauté de la sculpture, aussi la beauté technique de la sculpture. Voici comment se présente la reconstitution virtuelle du Colosse Sud. Cette année, cette saison qui vient de passer, nous avons mis la reine médiane. Elle, ce colosse-là, a une reine médiane et nous avons le nom. Elle s'appelle Isis. Iset, c'est une des trois filles d'Amenhotep III qui, à un moment donné de sa carrière, a reçu le titre d'épouse royale. La voici. Là-bas, vous voyez, et nous l'avons placée avec la reine que vous voyez là, avec la jambe et la jambe gauche. Et de profil, vous voyez encore les dieux Nil faire le sématawi. Et si ça marche, voici comment il sera remonté, ce colosse. Et regardez combien de pièces de raccords. Et sachez que les fondations sont déjà prêtes. Les socles modernes qui vont supporter ces deux colosses sont là, vous les voyez, c'est fini. Donc nous n'avons plus qu'à assembler des groupements de pierres, et au moment où nous aurons cinq grandes, ça c'est la conception du conservateur et du Raïs et de l'architecte, faire venir une grue, parce que ça coûte très cher, et faire une action pour les deux colosses, c'est-à-dire cinq colosses placés. Et voici ce que Benjamin Blaiseau présente comme manière de reconstituer le colosse. Et c'est assez génial, je dois dire, c'est bien, j'espère qu'on va réussir. En automne, Inch'Allah. Et voici derrière. Bon, longtemps avant de s'occuper de l'albâtre, Benjamin était là pour avoir fait quelque chose, une action absolument héroïque, avoir sauvé d'un endroit plein d'eau, de sel, des masses de calcaire absolument fondues et que si vous touchez, ça s'effondre. Il a eu l'idée de prendre des grandes masses de ce calcaire fondant, de les envelopper, de les mettre dans des formes renforcées en gypse et de les sortir. Comme vous voyez là, le rail sortir la pierre qui est complètement enveloppée, de laisser sur sol sûr et sans eau, laisser sécher, ensuite ouvrir. Et c'est très dur, très long. Un à un, retirer les plantes, les racines des plantes, un à un, enlever tout le limon qui s'est infiltré dans les fissures, injecté, consolidé, c'est fou. Mais regardez le résultat. D'une part, il y a, du côté nord, il y a une moitié de la partie d'un sphinx, avec la moitié du visage, absolument sauvé, sinon ça allait disparaître. Et si ça marche, vous verrez l'action de Benjamin avec son équipe qui, pendant des jours, a, sur un autre bloc, vous voyez, là, nous avons deviné que c'est la forme d'un sphinx, comme l'autre. Et alors, la partie que nous pensions être la tête, il l'a enlevée avec beaucoup de précaution et beaucoup de précision. Et voici la lumière qui se déplace, vous montre les journées de travail. Avec beaucoup de patience et beaucoup d'art, je ne vous dis pas encore ce que c'est, ou peut-être vous l'avez deviné, c'est une tête. Voilà. Alors, vous voyez, il faut petit à petit nettoyer, enlever les saletés, consolider. Les jours passent et c'est merveilleux. C'est un travail extraordinaire. Il a montré ça à un colloque que les collègues de Carnac avaient organisé. Et moi, en son nom, je vous présente ce travail-là, qui est merveilleux et qui n'avait existé que j'avais vu faire sur un bloc de calcaire, comme ça, très pourri, par Sophie Duberson à Carnac, et que j'avais invité de venir. Voilà le résultat. C'est merveilleux, non ? Choukran, ya Benjamin. Et donc, de là, après ça, c'était derrière le troisième pylône. De là, on passe, je fais très vite, à la cour péristyle, qui est en ruine, comme vous voyez, et une reconstitution de Nahiri qui vous montre comment les colonnes, entre les colonnes, les pierres. Cette cour avait servi à la célébration des jubilés du roi, comme nous montrent ces reliefs, comme à Soleb. Et dans cette cour-là, nous avons trouvé des morceaux d'architrave où vraiment c'est dit que le roi a fait ceci et que ce temple, comme temple de millions d'années pour son père Amon-Ré. Et vous voyez, les analphabètes qui détruisaient le nom d'Amon se sont trompés. Ils n'ont pas détruit. Il y avait un signe, ils ont laissé. Peter Delmanuel, il y en a un article très humoristique sur l'illettrisme des, des analphabètes d'Akhenaton. Et en bas, vous voyez un très très beau bloc qui anticipe sur les scènes de nature de Tel el Amarna, hein, avec des dunes, etc. La cour péristyle, voici comment elle se présente maintenant. D'une part, il y a les colosses de quartzite, donc au nord. La pierre vient de Gebel el Ahmar du nord. Le roi est représenté avec la couronne du nord, donc c'est le roi du nord. La latitude dont je vous ai parlé l'autre jour, debout, les pieds joints, les mains croisées sur la poitrine, mais plus momiforme, c'est fini. C'est un panier chendite qu'il porte. Voici l'exemple en granit rouge. Vous voyez combien joliment c'est poli. Et ça, c'est notre colosse surréaliste qui est moitié. L'autre moitié a été débitée à l'époque romaine. Et si ceci marche, vous verrez ce que nous avons placé sur une reconstitution de la stèle nord que nous avons remontée, le dallage que nous avons ouvert, qui est refermé maintenant, tout autour un mur en terre battue, en pisé, qui entoure pour protéger et suggérer l'ampleur de la cour. Et les dernières choses noires que vous avez vues descendre, ce sont des statues de Sekhmet, dont nous avons trouvé des centaines, et qui un jour, j'espère, reprendront leur place dans la cour péristyle et dans la salle hypostyle. Vous devez vous imaginer les colosses de cette manière-là, entre les colonnes, et ils n'ont pas de piliers, mais des dalles dorsales, des dalles sommet cintré. Donc, d'une part, le roi du nord et d'autre part, le roi du sud, très, très, avec conséquences, divisées en nord et en sud. Nous avons, de ces colosses-là, nous avons découvert une tête qui était vous voyez les numéros qui ont été joints. Donc, c'est trop fragile. Et cette tête-là avait été vue auparavant, avait été détruite par un feu. Et c'est une longue histoire, nous avons ramené un œil d'un magasin, un œil de l'étranger. Et la voici reconstituée. Nous ne pouvons pas l'exposer à l'air libre. Donc, nous avons sciemment donné, nous qui luttons toujours pour ne pas disperser et garder sur le site, nous avons donné au musée de Luxor, voici. Et de l'autre côté, il y avait une tête déjà trouvée par l'Abi Pabashi et qui avait trouvé sa place au musée de Luxor. Nous lui avons recollé la barbe. Et deux têtes, une tête et une partie inférieure de colosse avec le socle au Louvre, que vous connaissez bien. Deux têtes au British Museum en quartzite. Et ces deux têtes-là, c'est l'énigme, parce qu'elles n'appartiennent pas à cet ensemble. Et n'ont pas de provenance sûre. On ne sait pas. L'un est un don à celui de Boston. Et l'autre en haut, c'est une saisie. Donc, nous ne savons pas. Quelle est l'intrigue? Il n'y a pas d'uréus. Donc, ce n'est pas de cette série-là. Les autres ont l'uréus, comme vous avez vu. Est-ce que c'est Osiris? Ça, c'est une question pour Laurent. Parce que quand j'ai commencé l'enquête, j'ai vu que Osiris, ce n'est pas sûr qu'il ait toujours l'uréus. Vous voyez? Là, j'ai pris des scènes du temps de Séti. En haut, le registre en haut vous montre Osiris avec la couronne blanche ou Atef qui porte Uréus. Et en bas, le même règne, il y a des Osiris qui ont une coiffure tripartite ou la couronne Atef. Et même le célèbre lit d'Osiris n'a pas d'Uréus. Alors, je vous pose ça, amusez-vous chaque fois que vous voyez Osiris. Peut-être que vous découvrirez pourquoi. La clé, je ne l'ai pas encore, mais j'espère qu'avec l'équipe de Laurent et d'Olivier Perdu, on pourra peut-être venir à bout de ça. Je récapitule très vite, si vous avez un peu de patience. Depuis l'attitude debout, les jambes parallèles, les pieds joints et les mains croisées sur la poitrine de Djoser dans la colonnade de Djoser avec le manteau, puis les Mentotep 2 et les Sésostris. La rangée d'en haut vous montre le roi momiforme avec la couronne rouge ou blanche ou le Némès pour Djoser qui ne tiennent rien encore. Les uns ont un trou, mais on ne sait pas ce qu'ils tiennent. La rangée d'en bas. Alors, ici, c'est jusqu'à Amenhotep Ier pour Mentotep, inclusivement. Et là, en bas, ça commence avec Sésostris Ier, qui, tout au long, jusqu'à Thoutmosis IV, là-bas. Et la dernière fois, je vous ai montré celle qui allait qui était au musée de Suez. Maintenant, j'ai retrouvé mon USB réparé. C'est la statue qui est dans le temple de Mout. Donc, vous voyez, tous ces statues-là tiennent Ankh, y compris les Thoutmosites, ou avant ça, Sésostris. Ensuite, Hatshepsut rompt avec en portant quatre insignes, Was, Ankh, Heka et Nekhekh, imité par cette statue que j'attribue à Amenhotep III, qui a été réinscrit par Ramsès II et qui est devant le musée de Luxor et dont un autre, le pendant, seulement avec les pieds, se trouve au temple de Luxor. Et ensuite, vient une série à partir de ce moment-là où ils commencent à tenir les insignes de la royauté, comme autrefois Djoser. Voici des exemples. Et j'ai retrouvé, au fait, les deux autres têtes de Séti Ier, d'Abydos, dont je vous ai montré une au musée de Sohag. Les deux autres sont bel et bien au musée de Sohag aussi. Seulement, j'avais un disque à réparer et je les ai retrouvés pour vous dire que les trois têtes existent là. Et là, pour Dominique Farou m'a bien fait de me rappeler qu'il y a des pieds de Ramsès II au... Je les ai retrouvés pour vous faire plaisir. Et voici toute la série à partir d'Amenhotep III, qui, pour la première fois donc, ne porte plus de momie, et il est en Panchendit, ensuite à Akhenaton, et qui va finir par la... inclusivement Toutankhamon sur les sphinx du Dromos du 10e pylône à Karnak, et les pieds de Ramsès II au temple d'Osiris, ils ne sont pas momiformes. Donc, jusqu'à, dernier exemple, à Ramsès III, là-bas, tout au fond. Et donc, je pense que c'est la version festive du roi, de ce costume. C'est la version festive, solennelle, du roi couronné, qui vient d'être intronisé plus tôt. Vous voyez, la scène de Séti Ier vous montre, c'est ce costume-là qu'il a, et il tient les mêmes insignes, et c'est maintenant le roi qui vient d'être intronisé et qui est déterminé à régner. Je crois que c'est ce moment que symbolise ces belles statues. Et donc, pour finir, dans le temple, on n'a pas trouvé que ces colosses-là que nous remontons, mais des sphinx, dont deux androcéphales à l'effigie du roi et deux acéphales avec de la reine, une statue monumentale en albâtre de Sokar, je pense, avec un faucon avec la couronne qui est flanquée de deux plumes, deux statues royales qui malheureusement sont allées dans des musées autour du péristyle, tout cela, et une statue d'Amon acéphale qui avait été sûrement restauré au temps de Toutankhamon ou de Séti Ier, avec le socle trouvé quelques saisons plus tard, où c'est une statue d'Amon-Ré, maître des jubilés. Donc c'est à l'occasion d'un jubilé. Une tête de reine exceptionnellement belle, qui a été aussi trouvée dans des endroits différents. Une tête royale en schiste, et une statue, celle-là, d'une divinité à tête de faucon. Tout le monde l'a nommée Horus d'emblée. Et en faisant une enquête, on a vu qu'il y a une statue semblable, avec les mains existantes, à Munich, à la Glyptothèque. Et cette main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne tient ni sceptre ni rien. Elle est libre. Donc là-dessus, nous avons découvert une statue semblable qui avait été trouvée à Thèbes, dans un magasin de SCA. Et dernièrement, dans le musée de la civilisation, il y a une statue qui vient de Tanis, dit-on. Alors, les collègues de Tanis me diront dans quelles circonstances cette statue avait été trouvée, je l'espère. Et ne pas oublier les Sekhmet, comme je vous ai dit, par centaines, qui ont les yeux rouges, qui jettent des flammes et annihilent les ennemis de Ré. Nous faisons en coopération avec le Vatican et le musée Egizio de Turin, et j'espère que le Louvre et le British Museum y participeront bientôt, un projet pour mettre toutes les qualités, toutes les données des Sekhmet sur une base de données en ligne, comme vous faites avec, messieurs, avec les statues de la cachette. N'oublions pas les divinités zoomorphes, le crocodile, qui est qui est un corps de lion, une queue de crocodile et probablement une tête royale parce qu'il porte le némès, mais une tête royale en forme de crocodile. Et en bas, le bel hippopotame blanc qui est la Ouret Hedjet, la grande blanche qui est vénérée en Égypte depuis très longtemps. Un torse de Ptah qui rompt toutes les traditions. Au lieu de tenir le sceptre composite Djed, Ankh et Ouass comme une statue en albâtre venant de Kom El Hetan réutilisée à Medinet Habu, il tient des. Et c'est un Ptah qui est au sud de son mur. Probablement, il faut faire une enquête sur. Quel titre correspond à quelle attitude? Probablement, on trouvera. Nous avons une petite stèle où on venait chuchoter à l'oreille du dieu, et dans ce cas, probablement Ptah, parce que nous avons une petite stèle à la porte du deuxième pylône où un certain scribe Samut vient rendre hommage à un Ptah qui écoute les prières, justement. Et de ce même Samut, il y a une stèle à Bodleian Library. Qui montre le même Samut en train d'adorer un colosse que vous voyez là-bas. Et ce colosse-là, je pense que c'est les colosses, j'arrive à la fin, les colosses de la porte nord que nous avons remontés. Sophie Duberson, si elle est là, elle va se souvenir qu'en 2000, nous sommes allés étudier les restes de ces colosses-là tombés dans le champ privé d'un propriétaire où, naïvement, nous pensions que nous pourrions travailler. J'avais la permission jusqu'à ce qu'on se rende compte que non. Mais plus tard, au bout de plusieurs années, on nous a demandé de participer à la sauvegarde de ces colosses qui étaient maintenant inondés, qui étaient en danger. Et c'est Mohamed Abdel Maksoud qui a sauvé la situation en coopérant avec nous. Et vous allez voir, la tête de l'un des colosses à droite et montre le roi vieillissant. Ça, c'est vers la fin du règne, alors que celle que nous avons remontée dans la cour péristyle en granit rouge est le jeune roi. Et j'ai un petit film, mais ça dure 2 minutes. Est-ce que vous voulez voir comment on a... Oui. Donc, en mars 2014, on avait remonté le colosse est. Et en décembre 2014, voici le dernier jour où nous allons mettre le buste. Et comme je vous ai dit, il faut ramasser tous les travaux de la grue parce que ça coûte très cher. Il faut payer le transport quand elle vient, quand elle part. Et donc, nous avons travaillé le jour et la nuit, vous verrez. Voici la poitrine qui a été placée et la tête qui attend en bas. Vous voyez, elle va monter. Et vous avez suivi le trajet du soleil. On approche déjà de la soirée, mais il fallait rester parce que la tête tenait avec de l'araldite et il faut que ça sèche avant que la grue parte. Donc, nous avons patiemment attendu la nuit. Et voilà, le lendemain matin, la grue est repartie. Alors, ça vous donne une idée comment nous allons faire. Voici les deux colosses debout à la porte nord. Comment nous allons faire pour remonter les colosses d'albâtre. Et les fouilles voisines, c'est le même temple, mais le service des antiquités a fait des fouilles, une enclave, au moment de l'assèchement des travaux d'assèchement de la rive ouest, qui n'a pas été terminé finalement, ils ont trouvé dans ce que nous pensons être la cour solaire du temple d'Amenhotep III, des dyades du roi avec un dieu hiéracocéphale, deux grands babouins géants, un bas de statue en albâtre qui appartient probablement à la statue de Sokar que je vous ai montré, et une dyade à tête de... À une diade cynocéphale, à part les deux babouins. Et de ce même temple viennent les deux sphinx qui sont, comme Rainer Stadelmann disait, en train de geler au bord de la Neva. Ces deux sphinx-là qui sont là et que des dessins de bonhomie vous montrent comment ils ont été trouvés entre la cour péristyle, dont on voit une colonne là, et la salle hypostyle, les autres colonnes qui ont atterri au bord de la Neva. Et de ce même temple viennent des statues réemployées par Meremta dans son temple, une triade que je reconstitue comme ça, et c'est Osiris. Osiris associé à Sokar qui est dans l'Achétite. Laurent Coulon a un très bel article sur ça. Et puis en Bakshish, nous avons une bouche et une barbe royale, puis une dyade, vous voyez comment les chauffourniers ont utilisé une partie, c'est en calcaire, et ensuite le bas a été transformé en sorte de bassin, et le couple royal que je propose comme raccord, un buste au British Museum. Et la grande sculpture familiale qui représente la famille d'Amenhotep III avec la reine et les trois princesses qui sont représentées en rond de bosse près de leurs jambes, qui a été trouvée à Medinet Habu en morceaux. Et un socle encore existe avec des dieux, des noms agenouillés dans la deuxième cour de Medinet Habu, qui provient aussi de Kom El Hetan. Des deux dyades avec Thoth et Maat, réutilisées dans la deuxième cour du temple de Ramsès III à Medinet Habu. Une triade que vous voyez ici, et dont je propose un dessin fait par Naira Ampigian que j'ai publié dans Luxor Times, et une scène de couronnement où le roi est couronné par Horus et Seth, mais Seth est complètement refait, c'est moderne. Et finalement, il faut quand même, ce roi a fêté trois jubilés. Il fallait bien avoir des restes, des vestiges de ça, des témoignages de cela. Deux statues avaient été trouvées auparavant et une tête à Medinet Habu qui vient d'être exposée au musée du Caire, au musée de Tahrir, très bien. Et nous-mêmes, nous avons trouvé le bas d'une telle statue que nous allons bientôt publier. Et beaucoup plus au sud, donc nous avons du nord au sud, de Medinet Habu, il y a une dyade à droite qui est au musée de Luxor, qui représente le roi recevant le signe de vie du dieu Sobek. C'est un endroit nommé Dahamsha, tout au sud de Thèbes, d'où vient cette dyade qui a été réinscrite par Ramsès II. Et vous voyez le signe Ankh que le dieu tend, exactement comme autrefois Sahuré recevait du nom le signe Ankh que vous voyez là près de. Donc, les traditions perdurent, mais on apporte quelques nouveautés de temps en temps. À Karnak, il y a le célèbre scarabée où c'est vraiment écrit que Khepri remercie le dieu d'avoir fait un sanctuaire pour le roi, d'avoir fait un sanctuaire pour lui sur la rive ouest. Et je pense que le dromos du temple de Khonsu, que maintenant l'inspectorat de Karnak est en train de refaire d'une manière extraordinaire et qui n'est plus dans la rue mais inclus dans le temple, qui est fait de beaucoup de morceaux refaits et ceci, je pense que c'est ce dromos-là qui vient de l'avant du parvis du temple de Amenhotep III, c'est son nom, et les socles sont faits c'est vraiment des arrangements de pièces. Les collègues égyptiens qui s'occupent de ça nous diront. Et pour finir, on a le règne d'Osiris, voici une stèle trouvée d'une part montrant Osiris, de l'autre Réharachté et d'Amenhotep III, trouvée dans la cour de l'inspectorat, ça veut dire que ça appartient déjà encore au temple, qui nomme pour la première fois Réharachté en sa forme d'Aton. Et à droite, une stèle que nous avons rapatriée, remis dans le temple, qui vous montre à l'an 6 de Horemheb, Horemheb lui-même faisant offrande à Ptah, Sekhmet et Amenhotep III divinisés. Et je remercie l'équipe, je remercie Madame Marjorie Fisher qui nous a fait l'honneur d'une visite là-bas. Elle est près de la reine et qui va nous soutenir pour la saison prochaine. Donc, un grand merci spécial. Je remercie l'équipe et je vous remercie de m'avoir écouté. Sinon...
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.